Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Bienvenue sur Double Slash, le podcast indépendant qui parle de développement web et d'IA. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Donc nous sommes encore au mois d'août et donc pour certains, vous êtes encore en vacances, donc c'est cool pour vous. J'espère que vous profitez. On fait un petit épisode, on va parler de real time, c'est-à-dire que quand de temps en temps, on a besoin de d'afficher des datas rafraîchies avec des rafraîchissements automatiques. Voilà, pour l'exemple, je peux vous donner un exemple. Par exemple, Uber, si vous êtes déjà allé dans un resto retirer une commande, vous avez pu voir la tablette où s'affichent les commandes automatiquement. Donc, la personne ne va pas rafraîchir à chaque fois, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le rafraîchissement automatique en temps réel, en fait, au fur et à mesure que les commandes arrivent. Donc, on va parler de ça dans cet épisode. Et on va, avec Alex, on va parler de toutes les solutions techniques qui existent, comment ça peut s'implémenter, voilà, et puis les avantages et les inconvénients. Ça te va?
Ouais, moi ça me va, je trouve ça super intéressant et j'ai pu implémenter ce système-là sur une vraie application en production et je trouve que c'est super intéressant et c'est vrai que alors c'est des protocoles qui existent depuis longtemps, on connaît ce système-là, mais le fait que ta page bouge sans avoir à rafraîchir ta page ou à faire une action quelconque de refresh, de cliquer sur un bouton refresh, ou voilà, ça bouge tout seul et c'est hyper 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 intéressant et ça amène beaucoup de valeur pour le client quoi. Et donc oui, tu parles de l'exemple du restaurant, mais il y a plein de solutions aussi. Sur les chats ou les choses comme ça, sur des informations sur le trading, sur des informations qui sont mises à jour toutes les secondes, toutes les minutes, sur le score en sport. Par exemple, voilà, toutes les actions ont été mises, on récupère un feed d'actualité au fur et à mesure, mais aussi tout simplement la petite présence, juste est-ce que je suis connecté? Est-ce que je suis présent sur les applis de chat? Et puis après, on a aussi toute la partie de collaboration. Aujourd'hui, qu'on soit sur Notion ou sur Google Docs ou les choses comme ça, on voit le curseur de l'autre. Et en fait, toutes les informations sont implémentées en collaboration. Et donc, en fait, tous ces outils-là utilisent des fonctionnalités de real-time et de temps réel, de mise à jour en temps réel. Et c'est ce qu'on va voir. On va essayer de découper, en fait, pour bien comprendre les tenants, les aboutissants de comment c'est fait techniquement. Et donc, c'est là où ça peut être super intéressant. Après, je te propose qu'on attaque tout de suite. Je pense qu'on fait tous du JS, même qu'on soit développeur. N'importe quel développeur sur le web connaît ce système en fait d'event où en fait y a quelque part dans l'application JS, il y a un événement qui est émis. Donc, c'est quelqu'un qui vient émettre un événement et de l'autre côté, il y a un composant ou une fonction qui va écouter cet événement. Et donc, en fait, ce pattern-là, en fait, c'est vraiment c'est la clé, quoi. C'est vraiment la base de la base et c'est comme ça, en fait, que tout le temps réel va se faire. Sauf que dans le JS, on n'est que dans le scope de notre page. Donc, en fait, la portée en fait de notre événement qu'on va émettre va être vachement limitée et c'est pour ça que tu connais mon amour pour Redis.
Je connais ton amour pour les bases de données, le mec ça devient une obsession. tous les deux jours il m'envoie, j'ai trouvé cette base de données, j'ai trouvé ça.
Ouais, mais c'est vrai, mais en fait sur Redis c'est un protocole qui est en place depuis assez longtemps et en fait l'idée c'est d'utiliser du PubSub en fait et à travers Redis, donc chaque client en fait va se connecter au Redis et en fait tous les événements qui sont émis sur ce channel là en fait, vont être envoyés à toutes les personnes qui se sont abonnées. Donc, en fait, il faut voir ça. Moi, j'aime bien utiliser le terme de channel. Dans beaucoup de librairies, ils utilisent d'autres termes, genre des rooms ou... Voilà, en fait, c'est l'idée, c'est vraiment de voir un tuyau, quoi. Il y a un tuyau qu'on va spécifier et toutes les personnes qui écoutent, en fait, ce tuyau-là vont récupérer tous les événements. L'avantage de Redis, c'est que, en fait, ça va nous permettre d'être le fil conducteur entre deux applis. Et donc, en fait, on vient mettre un tiers au milieu, un qui va émettre et toutes les personnes qui écoutent, en fait, vont recevoir cet événement-là, quoi. Donc, on va dire, c'est le protocole le plus simple et le plus basique. Par contre, ça amène quand même assez plein de problèmes. Parce qu'en fait, il faut être sûr que si on émet un événement, il faut être sûr que les autres l'ont bien reçu ou écoutent bien et qu'on ne perde pas la connexion ou ce genre de problème. Donc, c'est assez touchy. Le gros problème du real-time, de toute façon, en fait, c'est être sûr de gérer la connexion. C'est hyper, hyper, hyper important.
Donc, la perte de connexion, c'est vraiment le point clé. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, si le client perd la connexion, il n'y a plus de mise à jour. Et donc, la seule solution, c'est de rafraîchir la page pour se reconnecter.
Ouais. Mais donc, si par exemple, il y a un événement qui a été envoyé pendant le moment où tu n'as plus été connecté,
tu l'as perdu.
Exactement. Et en fait, le protocole PubSub, OK, c'est super bien, ça marche. Par contre, s'il y a une business logic qui est hyper importante et vraiment cruciale où tu ne peux pas perdre cet événement-là, il va falloir que tu gères ton système autrement, quoi. Parce que si ton event il est envoyé et personne ne l'a écouté, il est perdu. Il n'y a pas de système de retry ou des choses comme ça. Au sein de Redis, au sein de ce protocole-là, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est vraiment... je jette une bouteille à la mer en espérant qu'il y a des gens qui écoutent. Vraiment. C'est ça qu'il faut garder en tête.
Ouais, après, on peut imaginer que si c'est, imaginons une liste de news qui va se mettre à jour automatiquement via le PubSub, si jamais tu rafraîchis ta page parce que tu n'as plus de mise à jour, tu effectues une requête dans tous les cas, donc tu auras les dernières news qui vont s'afficher, donc oui, tu as perdu l'événement, mais tu vas récupérer, non ?
Oui, sous couvert, en fait, que tu as enregistré tes données dans une base de données et que ton système en fait, d'émission... Il est d'abord, en fait, sur la base de données. Une fois que je l'ai enregistré en base de données, là, j'envoie les informations. Mais si, par exemple, un petit malin se dit « Bah non, mais moi, je vais directement envoyer tous les events », en fait, il n'y a pas d'historique. Donc, Et donc, en fait, il faut bien comprendre ce paradigme-là pour en fait, mettre plein de sécurité et plein de en tout cas, le protocole PubSub ne se suffit pas à lui-même. On est obligé de construire autre chose par-dessus pour pouvoir en fait, avancer.
Qu'on comprenne bien, donc tu as la base Redis qui est au milieu. Là. Toi, par exemple, avec ton bac, tu vas envoyer des informations au Redis sur ce channel. Et donc, ceux qui sont connectés vont recevoir automatiquement les nouvelles informations. Au niveau du front, c'est quoi ? Il y a une librairie ? Comment ça marche ? Ou c'est du code JS custom ?
Ouais. Après, si tu utilises en fait ton client Redis, la plupart des clients Redis vont avoir en fait une fonctionnalité en fait qui va gérer le PubSub, donc ils vont pouvoir à la fois émettre et recevoir. Donc, par contre, ça va être à toi en fait d'implémenter ce système-là un peu à la mano, quoi. Tu vois, tu vas utiliser Redis et il va falloir que tu construises ta business logic, tout autour de ce protocole-là. Donc, Et c'est pour ça, en fait, que potentiellement, ça peut être super intéressant de passer sur du server-side event. Alors, du serve, du, l'acronyme, c'est SSE. C'est ce qu'on va voir souvent, en fait. SSE, toujours même délire, c'est unidirectionnel. C'est-à-dire que le serveur va émettre des événements. Donc, toutes les tous les clients qui ont voulu s'abonner sur ce serveur-là vont pouvoir s'abonner. On va automatiquement enregistrer en fait, toutes les personnes qui se sont subscribed. Et à chaque fois que le serveur va émettre un événement, il va envoyer cet événement à toutes les personnes qui sont abonnées. Ça, aujourd'hui, il y a des choses qui nous permettent de faire ça quasiment nativement, en fait, avec les dernières versions de Node, à partir de je ne sais plus combien, mais les Event Source, où en fait, on va pouvoir gérer ça. Toujours même concept, un serveur, autant de clients possible et imaginable. Et donc... un exemple typique de business logic où à chaque fois qu'il y a une nouvelle commande, par exemple, la commande, on la traite en base de données, on l'enregistre et on envoie en fait les informations à toutes les personnes qui sont connectées et qui écoutent le channel en question. Donc souvent, en fait, le client on va faire un endpoint qu'on va appeler par convention mais subscribe et après si on veut mettre un paramètre par exemple je vais subscribe à au magasin ou au restaurant X par exemple et donc cette fois-ci quand il y a une nouvelle commande qui va arriver je vais émettre un événement sur ce channel de ce restaurant là le restaurant X et donc je vais envoyer une information. Toujours garder en tête server side event c'est du 1 vers N, tout est centralisé sur le serveur donc autant de clients possibles mais toujours un pour N quoi. Donc ça c'est du server side event et ça on peut le faire aujourd'hui quasiment nativement en fait avec avec les dernières versions de Node.
Et surtout SSE, j'avais pas trop regardé comment ça fonctionnait, j'ai regardé un peu hier. C'est du protocole HTTP donc c'est du natif
Exactement.
Et c'est natif dans les navigateurs, tous les navigateurs le prennent en charge. Donc c'est quelque chose qui est natif dans le navigateur, que tu peux pas besoin de librairie dans le navigateur, ça peut marcher directement.
Et donc là en fait tu peux facilement t'extraire en fait de Redis parce que ce système là en fait est nativement fait. Par contre, le comportement de ton navigateur va vraiment être différent. Sur des reconnexions automatiques, sur des connexions où si ta tab en fait elle est pas active, ils vont pas toujours écouter de la même manière. Donc là, pour le coup, c'est vraiment à nous de faire attention et de faire des tests sur les dernières versions et de bien configurer tous les paramètres de la connexion HTTP, dans les headers pour que en fait on garde la connexion active et que elle parce que en fait on crée un tuyau. Par contre, si le navigateur coupe le tuyau, clairement il n'y a plus d'informations qui passent quoi. Donc le gros avantage c'est que on n'est pas obligé d'installer un truc à part, tout est natif. Par contre, il faut quand même tester et bien valider le fait que tout soit bien paramétré. Il y a très, très vite un côté un peu wow effect, ça marche, tout, c'est trop bien. Par contre, quand on va dans les spécificités, quand on commence à tester des choses, on se rend compte que y a plein de petits ajustements à faire pour vraiment avoir un système hyper résilient et qui marche tout le temps, quoi.
Ouais. Alors dans la page MDN qui explique un peu le server sentiment, il y a un exemple de code PHP et au niveau du header ils mettent cache control no cache et content type text/event stream. Tu vois. Donc déjà il faut mettre un content type particulier. Je pense que ça joue beaucoup là-dessus.
Ouais, c'est
pour
clair.
que le navigateur comprenne que c'est un stream. Cette page est vachement intéressante.
Exactement. De toute façon, on mettra la page dans les liens de l'épisode, évidemment. Mais ouais, ça c'est super cool. Nativement, ça marche bien. Par contre, faut bien tout paramétrer, quoi. Sauf
contre,
que. Dis-moi.
Ouais, pardon.
Vas-y.
Je trouve que c'est un protocole. Alors, c'est un protocole qui est natif, tout ça, comme on disait. Et surtout, ça peut être pratique pour faire du real time. Quand tu n'as pas forcément un hébergement qui te permet d'avoir un serveur socket ou des choses comme ça, où tu es un peu limité, tu vois.
Exactement.
Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un protocole intéressant, le SSE, où tu as juste besoin de rafraîchir une liste de news ou d'infos ou de trucs comme ça. Vraiment, de commandes même. Hein, ça peut fonctionner.
Mais. Donc, mais après, tu vois, aujourd'hui, on utilise beaucoup les LLM. Et en fait, souvent, en fait, les data vont nous arriver au fur et à mesure.
Ouais, en stream, ouais.
Exactement. Et donc, en fait, ils vont utiliser ce système-là, en fait, du server-side event, pour dire, OK, j'ouvre une connexion sur ton prompt. Ton prompt, j'ouvre une connexion. Dès que j'ai des infos, je te les balance. Bam, 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 je te les balance. Et à la fin, en fait, où le serveur a donné toutes les réponses du LLM, je vais couper la connexion. Et donc en fait, c'est clairement à chaque fois qu'on fait du chat GPT ou en tout cas qu'on utilise un prompt, clairement, il y a du event source, il y a du SSE, en fait. Donc en fait, on pourrait dire qu'on utilise du SSE sans même le savoir parfois.
Ouais, sûrement. Non, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est un bon système. Donc on a dit pop sub Redis en premier, SSE en deuxième.
Ouais.
Et après.
Sauf que, en fait, ce qui est limitant en fait sur du SSE, c'est qu'il n'y a qu'une seule source qui va émettre. De l'information. Tout est centralisé sur le serveur. Donc, ça marche, par exemple, quand j'ai passé une commande ou quand l'information, en tout cas, est centralisée à un seul endroit. Sauf que quand je veux faire de la collaboration ou de la détection de présence, est-ce que la personne est connectée, l'information, en fait, elle n'est pas émise par le serveur, elle est émise par le client. Et donc là en fait il y a un problème, il nous manque des informations, et donc c'est là en fait où le WebSocket, en fait un autre protocole, vient pour nous aider. Et le WebSocket, c'est du bidirectionnel, c'est-à-dire que chaque personne on va créer un tuyau. Et chaque personne qui s'est connectée à ce tuyau va écouter et va pouvoir émettre. Alors après, on pourra mettre des restrictions. Est-ce que j'ai le droit de me connecter à ce channel-là ou sur ce tuyau-là? Est-ce que j'ai le droit d'émettre? Est-ce que j'ai le droit d'écouter? Voilà, il y a tout un protocole après par-dessus qu'on va mettre d'autorisation. Mais on va dire nativement et de manière très, très candide, ce protocole nous permet en fait de faire du bidirectionnel. C'est-à-dire que chaque client en fait va pouvoir émettre et recevoir. Et c'est là la grosse différence avec le server-side event, où server-side event 1 vers N client, et là le WebSocket, c'est du N client vers un serveur vers N client. Et on aurait tendance, à ne pas mélanger avec des connexions en peer-to-peer, c'est-à-dire une connexion entre moi et toi, Patrick. Là, le WebSocket, il y a bien une identité centrale au milieu qui est le serveur WebSocket, qui lui, en fait, va centraliser. Dès qu'il reçoit des informations d'un client, il va les envoyer à tous les autres clients. Donc, c'est ce qu'on utilise pour la collaboration sur Google Doc, par exemple, ou des choses comme ça, ou la présence, ou quand on bouge la souris là, sur Figma, quand on travaille à plusieurs. C'est exactement ce protocole-là.
Ouais, ouais. Non, ouais, c'est. Alors, bidirectionnel aussi, tu peux aussi envoyer des events du back aussi. Par exemple, il y a une action qui est faite, un enregistrement, et via le contrôleur, si tu es sur du Laravel, c'est un contrôleur, tu vas envoyer un événement au socket qui va renvoyer une info au client. Enfin,
exactement.
Voilà, ça marche un peu dans tous les sens.
Et en fait, ton back est considéré comme un client à part entière.
Ouais.
Vois, c'est...
Donc, et donc, vraiment, l'avantage, en fait, c'est que tu peux envoyer des événements d'où tu veux, en fait.
Exactement. Voilà. La source peut être soit centralisée sur le serveur, soit sur n'importe quel client. Et c'est pour ça que ça marche dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on dit bidirectionnel, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, ça, c'est pas natif. Même si on est obligé d'utiliser des librairies pour gérer ce type de protocole-là et de bien avoir aussi un serveur, en fait, qui va gérer ça et qui va orchestrer tous ces événements qui sont émis par tous les clients et il va les dispatcher à toutes les personnes à qui de droit. Ouais. Et donc, ça, c'est toujours... voilà, il faut bien comprendre que ce n'est pas natif. Il va falloir mettre en place quelque chose.
Il faut déjà pouvoir lancer un serveur, quoi. Il faut déjà avoir la possibilité de lancer un serveur.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, après, la majorité des serveurs aujourd'hui ont intégré ce protocole-là. Donc ils ont des petites librairies qui par extension en fait vont gérer ce protocole là on va pouvoir passer des informations. Je pense on a parlé tout à l'heure sur GraphQL. GraphQL, toutes les actions en fait sont sur un protocole HTTP, les queries et les mutations. Par contre, dès qu'on va passer sur des subscriptions, là en fait on va passer sur un protocole WebSocket. Donc c'est là où on vient changer en fait de dimension. On parlait tout à l'heure de petites librairies ou en tout cas que le serveur en fait doit être configuré pour ça. Et c'est vrai que les petits serveurs Node avec une librairie qu'on connaît, qui est très très connue, qui s'appelle socket.io, qui est justement en fait le but de ça, c'est de centraliser toutes ces informations là et de les dispatcher à qui de droit, quoi. Et en plus, on peut mettre en place un serveur, c'est assez léger et assez facile à mettre en place, quoi.
Ouais, surtout que la librairie, ouais, ça marche côté front et côté back, donc c'est vraiment pratique. C'est pas mal. Et ce que je te disais, c'est que Socket.io, à la base, c'était Guillermo Roche, comment on dit son nom? Roche. Qui a créé, il me semble que c'est lui qui a créé cette librairie. Donc Guillermo, qui est CEO de Vercel aujourd'hui.
Excellent.
Donc voilà. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. En 2014, puisque il y a un article du blog qui dit voilà, j'ai lancé la version 1.0 en 2014, juste après Node en fait, finalement.
Top, parce que là en fait c'est pas une surcouche qu'on vient installer sur un serveur, c'est vraiment un serveur Socket.io qui utilise en fait le runtime JS pour voilà, c'est vraiment mais hyper hyper simple. Sur je viens émettre des événements sur le côté back et côté client, je viens écouter ces événements-là et je réagis et je fais ce que j'ai à faire. Donc c'est une implémentation assez basique et assez rapide. Par contre, on est dans l'univers JS. Alors je connais beaucoup moins l'univers PHP. Mais la Laravel a sorti une solution un peu tout en un.
Ouais, entre autres, ouais, tu peux le faire assez facilement sur Laravel, donc Laravel Reverb, qui est un serveur WebSocket que tu vas lancer à côté de ton application PHP. Et donc, via ce serveur Socket, tu vas communiquer, envoyer des événements de ton application PHP Laravel, du back, du front, ce que tu veux, et lui va gérer ça. Voilà. Et en front, tu vas mettre la librairie EchoJS, je crois que ça s'appelle, et qui va communiquer avec ce serveur. Voilà. Donc c'est hyper simple. Enfin, en tout cas, sur Laravel, c'est plutôt simple à mettre en place, et c'est assez puissant. Ouais. Tu as toutes des fonctionnalités pour envoyer un event, tout ça. Pour la gestion, alors on n'a peut-être pas parlé encore, mais la gestion des gens qui sont connectés, parce que forcément, il faut envoyer l'événement quand c'est des trucs qui concernent un utilisateur, par exemple des données bancaires ou quoi que ce soit, tu dois cibler un seul utilisateur. Donc voilà, il y a ça aussi à gérer. Donc en tout cas, ça se fait facilement sur Laravel. Ouais.
Tout ça, on va en parler. Dans l'univers de Ruby and Rails, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle Action Cable, qui est le même concept, en fait, qui est de passer toutes ces informations via du WebSocket. Et donc, même délire de consommation. Après, voilà, chaque librairie va avoir son vocabulaire spécifique, mais c'est toujours un peu toujours la même chose. Un, on va dealer la connexion, on va dealer les consommateurs, ceux qui vont consommer les events, qui ont reçu des informations via des channels, et on va avoir des émetteurs. Et voilà, et on va envoyer des informations via tout, via du PubSub pour la plupart. Donc c'est toujours le même système. Néanmoins, en fait, très vite, quand on voit, alors peut-être que Laravel Echo, et je connais pas cette librairie, par contre, on va très vite arriver sur des problèmes à gérer. Et un des plus gros problèmes, et on l'a déjà évoqué, c'est que le client doit se connecter et doit garder cette connexion ouverte. Si pour X raison il a perdu en fait sa connexion avec le serveur WebSocket, bah, il faut qu'il puisse se reconnecter. Quelle est la latence de cette reconnexion? Tout ça, ça doit être géré. Et c'est pas facile. Alors, on l'a dit, on peut mettre des petits mots dans les headers qui vont bien. Le bon paramétrage des headers vont aider énormément. Néanmoins, c'est quand même pas super facile à faire. Mais il y a aussi, comme tu l'as dit, le séquençage des events, en fait, pour pas envoyer trop d'events plus que nécessaire, en fait, pour être sûr que l'event n'est envoyé qu'une seule fois sur une personne. Par exemple, si la personne est connectée sur son ordinateur, est-ce qu'on lui envoie sur son ordinateur, sur son iPad, sur son téléphone, sur sa montre, tout ça, voilà, plein de choses comme ça qui pourraient dire, ah ben non, en fait, on l'envoie qu'une seule fois au client qui est déjà connecté, et les autres qui sont en attente, ou en tout cas peut-être l'ordinateur ou son appareil sur lequel il a établi la dernière connexion. Voilà, tout ce genre de logique, en fait, où quand on commence à creuser, on se rend compte que c'est pas si facile que ça à mettre en place. Et par exemple, pour tout ce qui est trading, par exemple, on vient enregistrer toutes les données. Par contre, au moment où il se reconnecte, est-ce que je lui réenvoie toutes les informations? Est-ce que ça vient de la base de données, comme tu disais, tu vois? C'est OK, au moment où il se reconnecte, je refais une connexion à la base de données, et à partir de maintenant, la source, c'est le WebSocket. Voilà, toute cette business logic, en fait, d'informations, c'est à nous de la gérer, quoi. Et parfois, ça va engendrer des problèmes techniques quand même assez rapidement. D'autant plus, par exemple, sur des conflits d'État. Par exemple, sur Google, toi, tu es sur la cellule A2, tu viens modifier A2, mais moi, je suis aussi sur la cellule A2. En fait, qui a la priorité, tu vois, qui gère ça. Et donc, est-ce que c'est au protocole d'information de gérer ça? Est-ce qu'on vient séquencer les events? C'est-à-dire, toi, tu fais une modification, on l'enregistre, puis la mienne passe et on l'enregistre. Comme ça, on peut revenir en arrière, ou est-ce qu'on a perdu ces informations? Enfin, tout ça, c'est des choses qui font que, dès qu'on creuse, c'est pas si simple, en fait. C'est pas si simple.
Ah ça, après, le live, comme on a sur, comment ça s'appelle, les applications où tu vas gérer, faire des dessins en même temps, tout ça, machin, là, ça devient hyper complexe, quoi.
Ouais, en fait, t'as très, très vite le côté wow effect, tu vois.
Miro, c'est Miro, je cherchais Miro.
Miro, exactement. Ouais. Et t'as très vite, quand tu fais ton propre système, t'as très vite l'effet « Waouh, ça marche, c'est trop bien, c'est trop stylé, il y a les deux souris qui bougent, tu vois, waouh, c'est trop live. » Par contre, quand tu te confrontes à une dimension business ou à une fiabilité, à une reconnexion, à l'historique des data, des choses comme ça, tu te rends compte que wow, en fait, ouais, c'est bien plus complexe que new event source terminé, tu vois. C'est un petit peu plus poussé. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a des boîtes et du business qui se sont mis sur ce créneau-là pour justement, en fait, pouvoir proposer des solutions un petit peu out of the box. Sans pour autant passer par Laravel, Reverb ou Socket.io, où là, en fait, on va avoir à gérer, alors plus ou moins, je ne connais pas l'univers Laravel, mais toi, tu me dis qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont déjà présentes dedans. Donc, ouais. C'est plutôt top. Néanmoins, en fait, peut-être que je suis sur du .NET et il n'y a pas la librairie qui fait ça.
Dommage.
Donc c'est dommage.
Je suis taquin. Non, déjà, tu es sur du .NET. Donc,
Je suis taquin. Mais en tout cas, il y a des services, en fait, des services tiers qui vont gérer ça et qui vont faire lieu de, justement, de ce serveur, en fait, pour gérer les connexions de temps réel. Et donc, un des plus connus, c'est Pusher. Et ils ont même développé leur propre protocole. Et tu verras. Et en fait, on avait vu tout à l'heure que Reverb, en fait, utilise le protocole Pusher. Donc c'est un protocole qui est... Alors, est-ce qu'il est open source? Je ne sais pas. En tout cas, il est plutôt ouvert et c'est toujours le même pattern. Et donc ça, c'est plutôt facile. Et on verra après pourquoi c'est super intéressant. Donc là, c'est assez simple à mettre en place. On va choisir soit en PHP, soit du Node. Et clairement, on va ouvrir une connexion. On va se connecter à un channel et on va émettre un événement. Voilà. Et dans cet événement, on va mettre le payload qu'on veut. Et de l'autre côté, en fait, on va s'abonner à ce channel. Et à chaque fois, on va réagir à cet événement-là. Donc, assez facile à mettre en place, assez rapide et assez vite gratifiant, parce qu'on va assez très très vite avoir un retour, en fait, assez immédiat. Évidemment,
c'est quoi les pricing?
Le pricing, donc ça, c'est channel. Le pricing, en fait, on peut aller jusqu'à 200 000 messages par jour sur la partie sandbox. Oui et non, en fait. Et la première réaction que j'ai eue, c'est exactement pareil que toi. Je me dis, ouais, c'est pas si cher, en fait. C'est gratos, on peut 200 000 messages, c'est beaucoup. Sauf que si tu fais une fonctionnalité où, quand tu bouges ta souris...
Ah oui, non, mais là, c'est autre chose.
Tu vois? Ah ben ouais.
Non, je parlais d'un truc, d'un feed de news, un truc comme ça. C'est un truc qui se met à jour tout seul.
Exactement. En fait, ça va dépendre de ta business logique, tu vois, et de ton niveau de réactivité. Et donc, pour certaines applications, 200 000, ça va être juste énorme. Et pour d'autres, tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, non, c'est pas si énorme que ça. Donc, ce qui va vraiment être limitant, par contre, c'est ton nombre de connexions. C'est-à-dire combien de personnes vont pouvoir s'abonner à tous les événements. Et donc, là, on est limité à 100 connexions. C'est-à-dire, il y a 100 personnes qui peuvent se connecter en même temps sur ce serveur-là, dispatché sur autant de channels que tu veux. Mais le facteur limitant, pour moi, il est plus là, sur leur free tier.
Après, si c'est une sorte d'intranet, tout ça, que tu as 10 personnes qui se connectent, ça va. Tu peux utiliser largement la sandbox.
Exactement. Et on est complètement d'accord. Et donc, ça, ça va dépendre, en fait, de ta business logique. Au final, donc, c'est cher et c'est pas cher. Tu vois, c'est...
Bon, après, ça pique un peu quand même. Hein. 40... Après, tu passes de suite à 50 ouais. balles, mais t'as 1 500 000. Après, 100 balles. Ouais, ça va vite, hein, quand même, les tarifs. Hein.
Par contre,
300,
exactement.
500, waouh.
Là, le scale coûte très, 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 très cher. Mais très cher. Ouais. Un autre protocole, non, pardon, un autre service qui va gérer aussi un peu dans la même veine, qui s'appelle Abli. Mmh. Et là, en fait, eux, ils nous introduisent en fait sur leur techno vraiment avec des use cases particuliers, quoi. Donc, du PubSub, du chat, de ce qu'ils appellent le space, donc c'est la collaboration, le asset tracking. Voilà, j'ai mon livreur Amazon qui est en train d'arriver et là, on le géolocalise en temps réel. J'ai des actions à faire sur de la data. Voilà. Donc, c'est une implémentation vraiment par business logic. De toute façon, ils ont déjà intégré tous les SDK côté client, tous les SDK côté back. Et donc, voilà. Même délire, on est sur du pricing où, au départ, c'est pas cher. Par contre, très vite, à scales, ça coûte très, très cher. Là, on est à 500 messages secondes.
Tu remontes un peu.
Ouais.
Ouais. Si tu remontes un peu, je crois qu'il y a une offre aussi. Tu as les packages où tu peux payer au million de messages.
Au volume.
Ah ouais, t'as des...
Tu vois, par exemple, je sais pas, tu as une application qui fait de l'événementiel. En fait, tu vas pas payer par mois, en fait. Bah, tu as meilleur temps d'acheter un package d'events. Et pendant deux jours, tu vas te faire déglinguer la tête. Et puis après, bah, il ne se passe plus rien, tu vois. Ce type de service-là, en fait, va permettre de mettre en place des choses comme ça. Voilà. Soit tu payes par utilisateur, soit tu payes par au temps, en fait. Donc, voilà. Après, c'est à vous de regarder. La plupart du temps, c'est quand même des solutions qui sont out of the box, assez simples à mettre en place, assez rapides, pas chères au départ. Par contre, at scale, qui vont très, très vite coûter très cher. Avoir la maturité et le besoin. Je me devais quand même de parler d'open source.
Oui.
Où en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le protocole Pusher est ouvert. Et donc, il y a des personnes qui ont développé en fait un service en fait qui vient orchestrer ces applis et tous ces channels-là directement depuis notre back-end qu'on a déployé via un petit Docker hyper simple. Pour ceux qui utilisent Coolify, c'est one click install, donc au top. Et en plus, ils y font même l'arrogance de mettre le prix avec tous les deux Pusher et de Abli et combien ça coûterait, quoi. Parce que eux, ils disent clairement, on met ça sur un VPS à 5 balles. Avant que ça soit limité et qu'on arrive à la limite technique de la saturation de la machine, clairement, il faut y aller, quoi. Donc, at scale, je pense que c'est une configuration qui peut être bien plus intéressante. Et le gros avantage, c'est qu'ils utilisent le protocole Pusher. Et comme la librairie de côté front, en fait, de Pusher est open source et utilisable, en fait, tu utilises leur librairie qui va gérer la reconnexion et tout le package qui est intéressant. Et tu vas juste substituer ton back-end là où ils font de la thune, quoi. Donc, plutôt intéressant.
Complètement, ouais, parce que d'ailleurs, le stop paying for expensive real-time, tu vois, tout est dit. C'est vrai que les deux services qu'on a dit avant, c'est... Alors, pour certaines entreprises, ça ne va pas les gêner de payer, parce que voilà, c'est normal. Mais ce n'est pas donné quand même. Alors là, c'est vrai qu'avec un VPS, même à 5 ou 10 balles, si tu arrives à faire tourner un serveur WebSocket, tout ça.
Ouais. Absolument, mais
c'est quand même vachement intéressant.
Bien sûr, mais on revient toujours sur le même délire, c'est qui orchestre ces serveurs-là.
Il faut
les maintenir, il faut les sécuriser, il faut les monitorer, il faut, tu vois. Donc c'est est-ce que moi je préfère payer, je me fais pas chier, tu vois, ou je le gère moi-même. c'est toujours le même
C'est ça, c'est si t'as, ça dépend des compétences que tu as en interne. Si tu as des gars qui sont capables de gérer un serveur, oui. Si tu n'en as pas, bah, tu vas payer, Ably, tout ça. Bah, évidemment, de toute façon, c'est clair. Mais si tu sais gérer un serveur que tu as Coolify, tu le mets en un clic et puis c'est
C'est ça.
fait.
Non, c'est ça.
Bon, n'en parlons pas de Coolify parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur Coolify
Je
hein, de
sais,
nos
je sais.
auditeurs. Donc...
Mais on va le faire, Patrick. On va le faire
On l'attend, on l'attend.
ce workshop. Il y a beaucoup d'attentes là-dessus et c'est super cool. Par contre, si on veut faire quelque chose de bien, ça prend du temps. Et le temps nous était compté autant. Toi que moi, en tout cas moi c'est clair, c'était très compliqué. J'arrive à réduire un peu ma charge de travail et donc c'est parfait. C'est parfait. Yes, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce real-time event podcast
Non, je...
sur le temps réel?
Non, non, c'est intéressant. Et puis, d'autant que moi, le SSE, je ne le connaissais pas trop. Du coup, ça m'a forcé à m'intéresser à ça. Et c'est vrai que c'est plutôt assez puissant pour un truc qui est natif. Donc, ça permet de faire des choses assez simples rapidement. Non, après, il y aura les notes avec tous les liens. On n'a pas parlé de Nitro aussi. Nitro prend le WebSocket, je
Oui,
crois. Hein. Ouais.
absolument. Et on peut gérer ça sur un petit serveur Nitro. Attention, par contre, quand on vient héberger le Nitro, si on va dire par habitude, vous avez l'habitude de déployer vos applications sur Vercel ou sur Netlify ou choses comme ça, gardez bien en tête que c'est du serverless et que le serverless, la connexion n'est pas permanente. Donc, clairement, le temps
Ton WebSocket
d'exécution, à un
qui
moment
coupe,
donné, il va
ouais.
être coupé. Et donc, voilà, bien faire attention à ça. Je sais et j'ai lu que Cloudflare, en fait, gérait ce protocole-là et utilisait un système qui leur est propre pour gérer ce WebSocket. Donc, si vous avez prévu en tout cas de faire event source, donc du SSE ou du WebSocket, et que vous n'avez pas envie de payer des VPS ou des serveurs spécifiques, vous voulez utiliser le pricing de Cloudflare qui est très agressif et ça coûte quasiment que dalle, c'est pas cher. Regardez ça, allez expérimenter et allez tester parce que je pense que il y a peut-être moyen de faire des POC pas chers, enfin, voire gratos même, sur de la petite volumétrie. Donc en fait, on garde le bénéfice du serverless sans à gérer toute l'infrastructure. Et on a le bénéfice du WebSocket et de l'instantanéité de la réponse. Donc ça peut être super sympa à les tester et à les mettre en place.
Ok, bah,
Yes,
super.
top. Eh ben écoute, merci Patrick pour cet épisode. On remercie
Merci
aussi
à toi.
toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout de l'épisode, toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement à travers le GitHub sponsor ou tout simplement à travers les likes, les commentaires, les pouces et le partage des épisodes. On vous remercie et on revient très 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 vite. Ciao, ciao.
À plus, ciao.
Thank you.